وحياتي لك وحدك ولك على طول. بتصدق حسود وعزود ولسه بتصدق حسود وعزود لسه بتصدق حسود وعزود. قالوا لك الغيرة تزود حبي وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب وحده انت غالي عليا.
Le 14 août 1997, l'Inde fêtait les 50 ans de son indépendance. Et à ce moment-là, les Pakistanais n'ont pas caché leur irritation devant la très large couverture que la presse occidentale a accordée à l'Inde, alors qu'eux aussi fêtaient ce jour-là le 50e anniversaire de leur indépendance. Ceci est rapporté dans le quotidien The Indian Press Express. Et le début du démembrement du pouvoir colonial britannique sur le sous-continent indien en 1947 voyait en effet la création, à côté du pays de Mahatma Gandhi, d'une nation des musulmans. C'est ce que veut dire le mot Pakistan, la nation des justes. 50 ans plus tard, si le pays des purs, pardon, a assuré son existence, eh bien, ce n'était pas acquis d'avance. La violence et la corruption y règnent et l'enthousiasme des années héroïques est retombé, comme le souligne par exemple le quotidien de Karachi, Dawn. Alors, quelques informations sur ce pays. Donc, bien sûr, ce pays qui s'est créé donc, pour accueillir les gens de religion musulmane, alors que musulmans et hindouistes se déchiraient depuis de nombreuses années. Et malgré les protestations de plusieurs, dont Mahatma Gandhi, pour tenter de stopper ces affrontements terribles qui ont continué de déchirer l'Inde d'aujourd'hui et d'affronter l'Inde et le Pakistan. Donnons peut-être quelques chiffres sur le Pakistan. La croissance de l'économie pakistanaise est l'une des plus rapides d'Asie du Sud. Il y a environ 6% de moyenne par an sur 50 ans en termes constants, donc de croissance, que ces chiffres que l'on trouve dans The News. Et le revenu par tête d'habitant a augmenté de 231% les 20 dernières années, soit le taux le plus fort du sous-continent asiatique. Mais la croissance bénéficie bien évidemment d'abord aux élites. Sans réforme agraire et sans programme d'éducation efficace, les inégalités se creusent, souligne le quotidien de Rawalpindi. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 19 millions dans les années 60 à 42 millions en 1995. Et deux tiers des adultes sont illettrés. La moitié de la population n'a pas accès à des services de santé de base et 67% n'a pas l'eau potable, 89% pas d'équipement sanitaire et un quart des nouveau-nés sont mal nourris. Pour le cinquantenaire de l'indépendance du pays, un hebdomadaire de Karachi, le Herald, a publié un très vaste sondage qui traite à la fois de questions politiques, intérieures, extérieures, d'économie de société. Et ainsi, eh bien, on apprend diverses réponses surprenantes à propos de questions qui concernent les femmes. Par exemple, on demande : les femmes devraient-elles avoir le même droit au divorce que les hommes. Eh bien, 40% des gens sondés répondent non, mais 59% répondent oui. Et seul 1% dit qu'ils ne savent pas. Lorsque l'on pose la question de savoir si des relations sexuelles entre adultes consentants non mariés doivent constituer un délit, eh bien 14% dit non, par contre 86% dit oui. Lorsque l'on leur demande s'ils sont favorables au planning familial, et les gens sondés répondent à 28% d'entre eux non et à 71% d'entre eux oui. Il y a d'étranges contradictions, vous en conviendrez, suivant les questions qu'on pose aux Pakistanais et aux Pakistanaises, si les Pakistanaises ont été questionnées. Dans le journal de New Delhi, Outlook, est paru en octobre dernier deux témoignages de femmes qui témoignent sur le problème de la partition de l'Inde et du Pakistan et de la situation de bon nombre d'Indiens qui ne voulaient pas quitter l'Inde pour aller habiter au Pakistan, qui finalement ont dû le faire pour diverses raisons. Et deux femmes témoignent de cela. Entre autres, beaucoup d'artistes musulmans sont restés en Inde après 1947. À la fin des années 70, la tension avec le Pakistan rendait leur situation tellement difficile que beaucoup d'entre eux ont été poussés à émigrer. Et le témoignage des deux femmes que je vais vous lire, paru dans The Outlook à New Delhi, est justement le témoignage de deux femmes artistes. La première, Begum Para, est actrice et elle est retournée en Inde après avoir passé 3 ans à Lahore. Mais d'abord, elle n'était pas partie, elle raconte. Mes parents se trouvaient à Dalhousie, qui est à la frontière du Cachemire, donc la frontière entre le Pakistan et l'Inde, la frontière ouest de l'Inde, lorsque les émeutes de 1947 ont éclaté. Mon frère, qui est officier, les a transféré mes parents clandestinement à Lahore, au Punjab pakistanais, sous escorte. Pendant tout ce temps, j'étais moi à l'abri, à Bombay, qui était à ce moment-là épargné par les émeutes. Au volant de ma Hudson verte, en compagnie de deux autres actrices, ma vie était belle. Et pourtant, à un moment donné, en 1975, j'ai dû émigrer au Pakistan après le décès de mon mari, Nazir, qui était aussi acteur et cinéaste et qui est mort subitement. Toute ma famille a insisté pour que je déménage. J'ai donc adopté la nationalité pakistanaise et je me suis installée à Lahore. Sur le plan affectif, c'était très stabilisant de vivre auprès de ma famille, mais je n'ai jamais pu m'adapter à ce pays. Là-bas, les musulmans ont une culture très différente de ceux de l'Inde. Ils sont trop compassés. Nous sommes plus terre à terre. Trop de tabous sur ce que les femmes peuvent faire ou ne pas faire, sur ce qu'elles devraient dire ou ne pas dire, porter ou ne pas porter. Cela mis à part, c'est un endroit où il fait bon vivre. Le souvenir le plus marquant de ce pays, que j'ai adopté pendant 2 ans et 8 mois, une conversation avec un Pakistanais odieux, lors d'une soirée. Il m'a dit « Nous allons envahir ton pays ». Et je lui ai répondu « Pas la moindre chance, mon pays est le plus grand que le tien ». Il faut dire que je commençais à être fatiguée de me défendre en tant qu'indienne. Uzra Abad est actrice, danseuse et aujourd'hui heureuse de vivre au Pakistan. J'ai vécu à Bombay jusqu'en 1960, jusqu'à ce que nous soyons obligés d'émigrer pour des motifs familiaux. Mon mari n'allait pas bien et toute sa famille était installée à Lahore. Nous avons donc déménagé. Je me suis opposée à ce départ pendant 2 ans, puis j'ai fini par suivre mon mari. En 1947, ma sœur Zora, qui est aujourd'hui une très célèbre comédienne sous le nom de Segal, qui est restée en Inde, donc ma sœur Zora et moi, nous travaillons au théâtre de Prithvi à Bombay. Il n'y avait pratiquement pas d'émeute là-bas. Le directeur recevait des lettres anonymes qui l'enjoignaient de licencier les danseuses musulmanes de sa troupe, mais nous ne nous sentions pas menacés. Nous nous amusions bien, nous dansions, chantions dans la rue, lors des processions pour la paix. C'est probablement cette insouciance qui nous a sauvés. Quel est mon sentiment à l'égard de l'Inde aujourd'hui? Eh bien, de nombreux Pakistanais disent que le massacre de la mosquée d'Ayodhya, qui a eu lieu en 1992, était inévitable. Ils disent aussi que les musulmans indiens sont victimes de discrimination et n'ont aucun avenir en Inde. Il leur est difficile de trouver du travail. Le découragement s'empare petit à petit de la communauté musulmane. Le mariage mixte avec des hindous est une solution de dernier recours et aucunement un signe de libération des mœurs ou d'intégration, comme on le croit en Inde. Les femmes au Pakistan sont libérées. Moi, célibataire, j'exploite 3 stations-service. Je n'ai jamais été persécutée en tant qu'émigrée. Comment je me sens lorsque je reviens en Inde ? Bien, je ne suis pas obligée de porter le bindi, c'est-à-dire le point dessiné au milieu de mon front, contrairement à ce que pensent les Pakistanais. Je retrouve de vieux amis et ma famille. L'hindouisme ne m'attire plus autant qu'avant. Le charme est rompu. Il faudrait que les gens se rencontrent, mais cela n'arrivera pas. C'est aller trop loin. Je ne pense pas que les deux pays puissent un jour être réunifiés. C'était Yann Garbarek et Oustad Fateh Ali Khan et ces musiciens et musiciennes que vous entendiez pour nous évoquer le Pakistan. Nous partons maintenant pour une dernière nouvelle qui à la fois fera le lien entre l'Allemagne et Genève. C'est à propos du foulard de la maîtresse, c'est-à-dire le foulard islamique, bien sûr. Depuis plus d'une année, l'affaire de l'enseignante voilée de l'école publique genevoise nous préoccupe et malgré la décision du tribunal fédéral, la polémique continue et des pressions sont exercées pour affaiblir le principe de la laïcité et de faire un pas en arrière dans la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et il se trouve bon nombre de femmes à Genève qui ne peuvent pas accepter cela. Et un texte est proposé qu'il soit signé par le plus grand nombre de femmes possible pour réaffirmer notre volonté de l'égalité des sexes et la non-intervention de la religion dans l'enseignement face aux enfants. Eh bien, la même question, bien évidemment, secoue plus d'un endroit en Europe et dans le monde aujourd'hui, et par exemple en Allemagne. En Allemagne, où certaines écoles comptent 75% d'enfants musulmans, les élèves voilés n'ont jamais offusqué personne. En revanche, lorsque les enseignantes de surcroît allemandes se mettent à porter le foulard, eh bien, les réactions sont aussi mitigées. Alors, je vous lis ce qu'en écrit Die Tageszeitung à Berlin. Ulrike Tönnes en a assez. Je déteste ce genre de discussion, dit-elle. Depuis quelques mois, toutes les discussions tournent autour du même thème, le foulard, un malheureux mètre carré de tissu. Elle-même n'en possède pas un seul, mais au moins une cinquantaine de toutes les couleurs, du blanc au noir en passant par les plus bariolés, car cette Allemande de 44 ans s'est convertie à l'islam depuis 1986 et ne porte pas seulement le foulard dans sa vie privée, mais aussi pendant la classe à l'école primaire de Wuppertal où elle enseigne. Même en plein été, elle respecte scrupuleusement les règles du Coran concernant la tenue vestimentaire. Pas un cheveu ne dépasse, elle boutonne son gilet jusqu'en haut, elle porte une jupe longue jusqu'à la cheville et aux pieds des chaussettes blanches opaques. L'enseignante assure n'avoir eu aucun problème avec les autorités du Land où elle enseigne, en Rhénanie du Nord-Westphalie dont elle dépend, et depuis que sur proposition de sa directrice, une catholique très croyante, eh bien, elle est devenue directrice adjointe de son école. L'inspecteur pédagogique du secteur l'a même réconfortée, dit-elle, lorsqu'elle lui a fait part de ses inquiétudes à propos de son foulard. L'époque nous incite à faire clairement preuve de tolérance, estime l'inspecteur. Le foulard, explique doctement Ulrike Tönnes, n'a rien d'étrange, il fait depuis longtemps partie du paysage. Pourtant, dans le nord-est de l'Allemagne en particulier, la présence des femmes musulmanes est devenue banale, y compris dans les écoles qui, dans certains quartiers, comptent jusqu'à 75% d'enfants musulmans. Ces derniers trouvent donc tout à fait normal qu'une femme porte le foulard, sauf si cette femme est une Allemande. « Tu es marocaine, toi aussi ?» lui demande-t-il. « Non. Mais alors tu veux devenir marocaine ?» Les enfants ne comprennent pas encore que l'islam est l'une des grandes religions du monde, explique Ulrike Tönnes, et qu'elle n'est pas liée à une nationalité. Quant aux Allemands, elle raconte, par exemple, que les ouvriers qui viennent effectuer des travaux à l'école la prennent pour la femme de ménage. En 1986, Ulrike Tönnes s'est donc convertie à prononcer les mots qui lui ont permis de donner enfin sens à sa vie. Il suffit de prononcer cette petite phrase « Il n'existe qu'un Dieu et Mahomet est son prophète ». Et pour que ce geste solennel soit reconnu, il lui a fallu des témoins, deux hommes et quatre femmes. Quatre femmes ? Oui, parce que cette loi de l'islam selon laquelle la voix d'une femme compte pour moitié de celle d'un homme, l'énerve elle aussi. Ah bon ? Mais cela dit, répète-t-elle avec insistance, elle n'a pas adhéré à une secte. L'islam est l'une des trois grandes religions du monde et dans toutes les religions, n'y a-t-il pas, y compris pour les chrétiens, une part de foi pure et simple ? Sa famille, qui tout d'abord a craint qu'elle puisse être victime d'agressions et de violences xénophobes, est désormais rassurée. Lorsqu'elle cherchait un sens à sa vie, Madame Tönnes, qui adhérait à un islam tolérant et libéral, a trouvé que les règles pragmatiques que donne l'islam pour la vie quotidienne étaient sécurisantes. Elle est fermement convaincue que c'est à chacun de décider s'il veut ou non afficher dans sa tenue vestimentaire son appartenance religieuse. Elle classe les gouvernements qui veulent l'imposer à ceux qui ont d'autres convictions religieuses dans la catégorie des bigots. En s'habillant comme elle le fait à l'école, Ulrike Tönnes ne voit pas comment elle pourrait heurter la sensibilité d'autres croyants. Mais lesquels ? Comment blesser les autres en portant trop de vêtements ? Renate Bayer prend les choses moins à la légère que sa collègue. Sous le foulard noir, son visage est blême et ses traits sévères. Depuis sa conversion à l'islam, elle a pratiquement perdu toutes ses amies. Cette jeune étudiante de 21 ans, qui s'apprête à devenir enseignante, n'a pas du tout envie de parler de sa foi. Dans la ville de Hesse, d'où elle est originaire, elle s'est trop fait ridiculiser. C'est pourquoi elle est partie pour Francfort, dans l'espoir d'y trouver plus de tolérance et moins de provocation. Ses amis allemands, assure-t-elle, l'ont mal réagi, surtout les jeunes femmes. Mais ses parents sont toujours sous le choc. Et c'est par l'intermédiaire d'un ami égyptien qu'elle a commencé à s'intéresser à l'islam, raconte-t-elle. Leur amitié a pris fin lorsqu'il a compris que l'islam, pour elle, c'était sérieux. Il n'a pas supporté. Il était tellement fier d'avoir une amie allemande. Et voilà que tout d'un coup, je me suis mise à me balader partout avec le foulard sur la tête. Alors qu'en est-il des femmes genevoises par rapport à ce qui a été décidé à propos de cette enseignante qui, elle aussi, voulait travailler en tant qu'enseignante au primaire voilée ? Eh bien, donc, le tribunal fédéral a dit que cette femme ne devait pas porter son voile en classe. Et pourtant, la polémique, je vous le disais tout à l'heure, continue et des pressions sont encore exercées pour affaiblir le principe de la laïcité et faire un pas en arrière sur la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Alors, le collectif 14 juin estime nécessaire d'exprimer publiquement une position qui se définisse franchement du point de vue des femmes et de la lutte pour l'égalité des droits. Et elles invitent donc toutes les femmes à signer le texte que je vais vous lire, à le proposer autour de vous. Et ce texte sera adressé ensuite aux quotidiens locaux sous forme d'une lettre de lectrice, puis transmis à la présidente du département de l'instruction publique et aux associations professionnelles concernées. Alors, je vous lis le texte proposé à la signature de toutes les personnes se sentant concernées par le collectif du 14 juin. C'est avec soulagement que nous avons appris la décision du tribunal fédéral concernant le port du voile islamique par une enseignante à l'école primaire à Genève. Dans son arrêt, le tribunal se réfère notamment au principe de l'égalité des sexes. Sans résoudre tous les problèmes, la laïcité ouvre un espace important pour assurer cette égalité de traitement entre filles et garçons dans l'école publique. Celle-ci serait menacée si l'école ou la société était à nouveau régie par des principes religieux. Le contexte international nous inspire les plus grandes craintes quant aux effets pernicieux de l'application de politiques rétrogrades sous le couvert de la religion. Le droit à l'instruction des filles, les conditions de vie et les droits fondamentaux de la personne humaine sont quotidiennement bafoués. Sans jamais tomber dans le piège du racisme, de la xénophobie ou de l'intolérance, nous ne pouvons admettre que dans l'école publique genevoise, on se réclame d'une norme vestimentaire d'origine religieuse qui enjoint les femmes à se couvrir entièrement le corps, sauf les mains et le visage, pour se dissimuler du regard des hommes. À Genève, l'exposition du musée d'ethnographie intitulée « En attendant le prince charmant » illustre le long chemin parcouru pour que les filles soient au bénéfice d'une véritable éducation. Pourtant, nos institutions ne sont pas encore parvenues à assurer les mêmes chances à tous les élèves. Même si formellement filles et garçons suivent le même programme et ont accès aux mêmes filières de formation, de nombreuses études démontrent que les préjugés et les stéréotypes sont encore très présents. En dépit de certaines avancées, les filles entrent avec peine dans des filières et formations professionnelles dites masculines. Il faut permettre aux filles et aux garçons de développer le meilleur d'eux-mêmes au-delà des stéréotypes qui limitent leurs choix. Dans ce domaine, les institutrices et les instituteurs ont un rôle important à jouer et doivent se garder de toute attitude discriminatoire entre filles et garçons. L'affaire de l'enseignante voilée est révélatrice. Les prises de position, les hésitations, les silences témoignent bien de la précarité des récents progrès obtenus par les femmes dans notre société. Nous prions instamment les autorités scolaires et le corps enseignant de défendre et de renforcer le principe de la laïcité dans nos écoles et de tout mettre en œuvre pour que l'école publique favorise l'égalité des droits entre filles et garçons. Si vous voulez obtenir ce texte, n'hésitez pas à écrire au collectif 14 juin chez Marina Descaro, 51 route de Frontenay, 1207 Genève. Je répète, collectif 14 juin chez Marina Descaro, 51 route de Frontenay, 1207 Genève. Elle vous enverra ce texte que vous pourrez lire et faire lire à d'autres gens autour de vous. Et vous pouvez lui renvoyer votre acceptation de signer ce texte pour qu'il soit publié dans la presse et transmise à la responsable du département de l'instruction publique de Genève.
Abgefahren, weggetreten, abgetreten, drauf sein, heiß sein. Abgehoben, abgefahren, weggetreten, abgetreten, drauf sein, heiß sein. Abgehoben, abgefahren, Hermann, wo bist du? Hey! Weggetreten, abgetreten, Hermann, wo bist du? Hermann ist da! Dieser Soft der Pensionen. Das wahre Leben kann er nicht sein. Nationen. Gott, ich habe mich sehr verschonen.
Da, die Wand geht um. Menschen, die Decke kommt runter. Und der Teppich wird immer tiefer und tiefer. Und die Wörter und ihre Bedeutung.
Mama! Papa!
Ach, davor auf! Hier ist die Polizei!
Der Wahnsinn ist eine Reise zur Hölle. Das Gehirn erkrankt und schwankt. In immer neue Dimensionen, da, wo die bösen Nächte wohnen.
Vous aurez bien sûr reconnu la folie de Nina Hagen qui termine aujourd'hui notre remue-ménage Planète Femme. La semaine prochaine, eh bien, c'est les vacances et vous retrouverez deux mercredis de suite des portraits d'enseignants et d'enseignantes en situation difficile. Mélanie me fait concurrence. Donc je disais des portraits d'enseignants et d'enseignantes qui, dans le monde, se trouvent en situation très difficile pour faire leur métier. J'ai découvert ces portraits dans une brochure éditée par l'UNESCO en 1997 sous le titre « Le courage incarné, portrait d'enseignants ». Alors vous y rencontrerez à la fois des enseignants qui viennent, une enseignante du Rwanda, une enseignante française, une enseignante américaine, mais aussi une enseignante laotienne, un enseignant de Palestine et en même temps une interview que j'avais effectuée il y a de cela tout juste un an en Palestine avec des enseignants qui ce jour-là étaient en grève contre l'autorité palestinienne qui refusait de leur accorder un salaire décent mais surtout le droit de revendiquer, c'est ça le plus grave. Alors voilà pour les deux mercredis prochains dans Remue Ménage, Radio Zone Onde Femme, et on se retrouve dans 15 jours pour notre nouvelle émission en direct. Et pour terminer aujourd'hui, eh bien, je vous laisse en compagnie de Mélanie.
Dream, I would fill a hall and tell all the people tear down the wall that keeps them from being a part of it all, 'cause they gotta get close to it all. The village sugar takers, Madison Avenue pink dream makers, they try to escape from it all, but instead they build walls, that's all. But they wanna be close to it all. There's just one more thing that I wanna say. Everyone's got their own special way that keeps them from getting too close to the day. Accept and be part of it all and all. Everyone, tear down your own little wall that keeps you from being a part of it all. 'Cause you gotta be one with the one and all. And everyone, tear down your own little wall that keeps you from being a part of it all. 'Cause you gotta be one with the one and all. You gotta be close to it all.
Mélanie, c'est la fin de Remue-Ménage, mais c'est toujours Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Et rediffusé le jeudi.
I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Et de joyeuses Pâques.
I want some figgy pudding. I want some figgy pudding. I want some figgy pudding and a cup of good cheer. I won't go until I get some. I won't go until I get some. I won't go until I get some. So bring it right here. Once in the year, it's not thought amiss to visit our neighbors and sing out like this. Our friendship and love, good neighbors abound and peace.